Panorama Économie.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Capi. Mais d'abord, les titres de ce panorama économique. L'apport du secteur minier au budget national de la RDC serait très faible par rapport aux attentes. Révélation faite en marge de la revue annuelle du programme d'action prioritaire du gouvernement qui s'est tenu à Kinshasa. À la une, également, la mise en garde sévère du gouvernement congolais contre les fonctionnaires de l'État qui perçoivent toujours les taxes supprimées. Les récalcitrants vont purement et simplement perdre leurs emplois. Une route à quatre voies, une usine de cimenterie et un quai seraient bientôt construits dans le Bas-Congo. Un accord à cet effet a été signé entre une firme chinoise et le gouvernement provincial du Bas-Congo. Un invité dans ce studio pour analyser et commenter l'actualité économique de la semaine, il s'agit du professeur Godempoi Kadima. Il est économiste de formation et enseigne dans les universités de la RDC, dans l'université de Kinshasa. Mais il est également pasteur d'une église, une grande église à Kinshasa. Il vient de publier un ouvrage sur le droit douanier en RDC. Il nous parlera également de ce livre dans ce magazine. Bonjour pasteur.
Bonjour.
Professeur.
Comme vous voulez, mais je souhaite plus être un peu pasteur, même si j'interviens sur les questions qui sont liées au temporel.
Merci beaucoup. Alors au micro, Nadine Foulantimba et François Kadima pour vous présenter ce panorama économique.
Panorama économique, le dossier.
Voilà, nous allons commencer par le premier dossier de la semaine. Revue annuelle du programme d'action prioritaire du gouvernement. Les travaux se sont tenus au Grand Hôtel Kinshasa Nadine.
Mais en amont, les secteurs miniers étaient examinés de fond en comble et il a été relevé que l'apport de ces secteurs au budget national est très faible. Cet apport varie entre 14 et 17%.
Alors, qu'est-ce qui explique cette faiblesse et que faut-il faire pour y remédier? Yenga Mabulia, coordonnateur du projet d'appui au secteur minier en RDC, Promine, répond à Nadine Foulantimba. On l'écoute.
Le ministère des Mines a déjà pris tout un ensemble de décisions et d'initiatives. La première, par exemple, c'est celle de la révision du code et règlement minier qui pourrait changer certaines dispositions fiscales qui, dans le compte, de manière à augmenter notre couverture. La deuxième, c'est également, par exemple, la valeur ajoutée, donc obligation aux compagnies de commencer à produire sur place pour une valeur ajoutée, mais aussi utiliser la sous-traitance locale. Donc il y a plusieurs séries de mesures qui sont prises, mais il faut aussi comprendre que un investissement, lorsqu'il est fait, la première étape c'est d'abord de rembourser l'investissement. Et donc la plupart de ces compagnies minières dont on parle, bien sûr elles exportent beaucoup, mais elles sont soit sous régime de convention, soit elles sont encore dans leur phase de rembourser, et bien souvent elles sont exonérées ou elles ont toute une série d'avantages. C'est ce qui fait qu'on ne sent pas immédiatement l'apport du secteur minier, mais dans les années à venir, vous verrez que ça va aller en augmentant très rapidement.
C'était Yenga Mabulia, coordonnateur du projet d'appui au secteur minier en RDC Promine, qui répondait à Nadine Foulantimba. Nous sommes dans Panorama économique et nous avons comme invité le professeur et pasteur Godempoi. Il est économiste de formation, il enseigne dans les universités de Kinshasa, dans l'UNIKIN. Alors, professeur, vous avez suivi oui, cette analyse du coordonnateur de Promine. C'est par rapport à la contribution de mines au budget de l'État, 14 à 17%, alors que les ressources minières produisent beaucoup. Il y a beaucoup de compagnies minières qui viennent exploiter les ressources naturelles. Quelle analyse faites-vous de cette situation?
Merci. Je crois que le coordonnateur est sur la bonne voie. Mais ce qui me cœur, c'est que chez nous, nous revenons toujours en retard. D'emblée, je voulais d'abord expliquer le potentiel minier de notre pays, parce qu'il y a beaucoup de mythes autour de ces potentialités. Il faut que les gens les sachent d'abord, même si je vais abonder dans les mêmes sens que les coordonnateurs, mais on entretient beaucoup de mythes. Il faut d'abord connaître les mines congolaises sont à quel stade. On est à quel stade maintenant? Des recherches, d'exploitation? Ce sont des questions auxquelles il faut répondre. C'est vrai que sur le plan quantitatif, on dit qu'aujourd'hui, nous allons nous sommes déjà autour d'un million de tonnes. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que la tonne du cuivre sur les marchés internationaux, pendant des périodes ensoleillées, elle peut atteindre 10 000 dollars, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Lorsque vous prenez ces 1 million de tonnes et que vous le multipliez par 10 000, qui est le prix de la tonne sur les marchés internationaux, vous vous rendrez compte qu'en fait, les chiffres d'affaires attachés à l'activité minière dans notre pays, c'est à peine 10 milliards de dollars.
Mais dans les mines, vous savez, professeur, il y a beaucoup de ressources. Nous avons le diamant. Nous avons de l'or, et vous savez, il y a plusieurs entreprises qui exploitent de l'or dans l'est du pays. Il y a la cassiterite, et tout ça, vous pensez que ça peut produire un pourcentage trop faible dans le budget?
Non, je suis parfaitement d'accord que l'apport est faible.
Oui.
Mais il faut qu'on puisse démystifier les mythes qui entourent nos mines. Donc, lorsque je parle déjà du secteur porteur,
oui,
donc qui est celui du cuivre, donc les gens doivent comprendre que, nonobstant tout ce qu'on est en train de dire sur les plans chiffréistes, ce secteur peut rapporter, donc le chiffre d'affaires global est autour de 10 milliards de dollars. Donc ce n'est pas vraiment de l'amende comme les gens ont tendance à croire, mais ce qui défavorise, parce que l'État devait profiter de cette croissance, ce qui défavorise l'apport du secteur minier au budget de l'État, c'est comme les coordonnateurs en train de dire, nous avons un code minier inadapté. La première difficulté, c'est que la plupart des exploitants qui sont dans ce secteur, il y en a qui sont au niveau de la phase de la recherche.
Il dit que certains sont exonérés aussi.
C'est ce que je voulais dire. Mmh. C'est au niveau du code minier qu'il y a eu un régime fiscal qui désavantage l'État. Non seulement qu'il y a des exonérations, mais même les mécanismes d'amortissement, il est tel que lorsqu'on l'applique, finalement, sur le plan de l'impôt, par exemple, sur les bénéfices de ces sociétés, on ne se retrouve pas avec grand-chose. Donc, la première démarche à faire dans le contexte actuel, il faut revisiter les codes miniers en revisitant impérativement le régime fiscal. Ça, c'est de un. Au-delà de la fiscalité classique, il y a également un problème de la parafiscalité avec ce qu'on appelle la redevance minière.
Bien, hein.
Lorsque vous êtes au Chili, par exemple, vous verrez que la redevance minière, elle va des fois jusqu'à 30%. Donc, elle varie entre 20 et 30%. Mais chez nous, cette redevance, en moyenne, c'est 2,5%.
Nous allons prendre notre deuxième sujet de la semaine. Donc, la semaine, nous avons parlé de la suppression des 38 taxes dans les secteurs fluvial et lacustre par le gouvernement central. Les armateurs s'insurgent contre la résistance qu'ils rencontrent dans certaines provinces par rapport au suivi de cette mesure, Nadine.
Ils prennent les cas de Bandundu, où les autorités de cette province continuent à imposer la taxe de recouvrement agricole sur chaque produit. Dans une déclaration faite le lundi dernier à Kinshasa, les présidents des armateurs a dénoncé cette situation. Selon Didier Mukoma, la loi 13/001 qui détermine les taxes attribuées aux entités territoriales décentralisées n'a jamais inclus la taxe sur les produits agricoles. Il a donc demandé au gouvernement central de rappeler les provinces à l'ordre. Didier Mukoma a été au micro de François Kadima.
Les documents que nous avons ici, c'est une ordonnance 13/001 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des provinces et entités territoriales décentralisées ainsi que leurs modalités de répartition. Les provinces n'ont pas droit à créer des taxes à part les taxes qui leur ont été attribuées par le gouvernement central. Donc, parmi ces taxes, il y a la taxe-là de recouvrement qui ne fait pas partie de cette ordonnance 13001. Même l'ancienne ordonnance 089, nous n'avons pas trouvé une taxe qu'on appelait taxe de recouvrement. C'est une taxe qu'on a imposée à des commerçants gratuitement à partir de cette province de Bandundu. Nous demandons que les autorités puissent prendre des responsabilités afin qu'on ne puisse pas déranger les bateaux parce qu'on est en train de bloquer les bateaux là-bas pendant des jours et des jours en les obligeant de payer à peu près 3 dollars. Donc, chaque sac de maïs ou de manioc qui doit quitter la province de Bandundu pour venir, je ne sais pas ici à Kinshasa, doit payer 3 dollars. Et les huiles, c'est 5 dollars la tonne.
Toujours par rapport à cette situation, le gouvernement congolais met en garde les fonctionnaires de l'État qui continuent à percevoir les 38 taxes fluviales et lacustres, donc déjà supprimées.
Il dit avoir adopté des mesures coercitives contre tous ceux qui résistent à l'application de ces décisions. Au cours d'une conférence de presse tenue le mercredi dernier à Kinshasa, le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement a fait savoir que les récalcitrants vont purement et simplement perdre leurs emplois. D'autres sanctions vont jusqu'à l'emprisonnement. Lambert Mende est au micro de Jeff Ngoy.
Il y a de la résistance, c'est vrai. Nous recevons des rapports. Des gens croient qu'ils peuvent vivre comme hier sur le dos des Congolais. Je pense qu'ils sont bien mal inspirés. Hier, je crois, tous nos 8 collègues se sont réunis avec le vice-premier ministre et ministre de la Défense pour confirmer ces mesures-là et prendre des mesures d'exécution, de contrôle et envisager des sanctions à l'endroit de ceux des fonctionnaires qui montreraient de la résistance. Un fonctionnaire n'a pas à résister à un ordre du gouvernement. Démissionner de votre fonction, ça n'a aucun sens. Ils vont simplement perdre leurs emplois et ils vont même, pour certains d'entre eux qui vont trop loin, aller en prison. C'est une mise en garde et un avertissement gratuit que je leur donne au nom du gouvernement dans ce qu'ils croient être un bras de fer. Ils n'ont aucune chance.
Professeur Godempoi, vous avez suivi d'abord les armateurs à travers leur président qui se plaignent. Le gouvernement a décidé de supprimer 38 taxes sur les 59 que l'on fait payer dans les secteurs fluvial et lacustre en RDC. Taxes supprimées, mais il y a un problème d'application. Nous avons pris le cas des Bandundu où la taxe sur le recouvrement de produits agricoles s'est fait payer. Le gouvernement, de son côté, menace.
Si, je crois que le problème est global et complexe. Oui. Donc, j'ai un léger avantage, c'est que M. Didier Mukoma, je l'ai eu comme étudiant dans mon parcours, et IAP, il venait de soutenir brillamment un mémoire sur cette question. Donc, j'ai eu à suivre ça. Parce que vous le savez que, bien avant cet arrêté interministériel que nous saluons, il y avait environ 57 impôts et taxes qu'on percevait dans le secteur fluvial et taxes.
C'est
énorme. Et c'est ainsi, en fait, mais le problème ne se pose pas. Je vais vous faire voir que les fonctionnaires doivent obéir au gouvernement.
Okay.
Mais le problème ne se pose pas tellement à ce niveau. Nous avons un problème dans notre pays, c'est un problème de politique publique qui ne sont pas cohérentes. Vous trouverez que chaque ministère, chaque entité dans son secteur vit en paria. C'est ainsi que les mesures qu'on prend finirent par avoir des répercussions négatives dans l'ensemble. Ce que j'ai toujours suggéré et que je vais encore suggérer aujourd'hui, c'est que dans ces pays, on doit avoir une unité des politiques publiques. Ça, comme ça, il y aura de la cohérence.
Cela veut dire ?
C'est-à-dire qu'une structure qui étudie, analyse toutes les décisions que l'État par les gouvernements centraux ou les entités décentralisées veulent poser pour en étudier à la fois l'opportunité et l'efficacité. Le problème lui-même part de la décentralisation. En management public, il y a un distinguo qu'il faut faire entre la prise d'une décision et la résolution d'un problème. Donc on peut prendre une décision qui ne peut pas résoudre le problème. C'est le cas de la décentralisation. Vous voyez même que maintenant, on doit revisiter la constitution parce qu'on s'est rendu compte que les provinces qui étaient prévues, on aurait du mal à les matérialiser. Donc ce sont des choses qui, à mon sens, ont été faites soit sous la pression, soit dans la précipitation. Et lorsque le gouvernement central se décide de supprimer les impôts et les taxes, les provinces devaient s'incliner. Je voulais te dire que les provinces aujourd'hui n'ont pas besoin de créer de nouvelles taxes.
Alors pourquoi ?
Et elles ont déjà suffisamment de la matière, parce que vous savez que la fiscalité nationale s'est délestée d'un nombre important de ces impôts, à savoir c'est l'IREL, c'est l'impôt foncier, c'est l'impôt sur les concessions minières. Alors, c'est déjà assez pour les provinces. Et d'ailleurs, moi, je suis de ceux qui pensent que l'État congolais étant un pays post-conflit, il ne faut pas donner suffisamment de moyens financiers aux provinces, parce que ça peut déboucher sur la bancarisation de notre pays. Donc, moi, je pense que les provinces n'ont pas à créer de nouveaux impôts et taxes, parce qu'ils en ont déjà assez, qu'ils apprennent d'abord à rationaliser la collecte de ce qui a été délégué par l'État. Et là, je crois que tout fonctionnaire, parce qu'il faut préserver l'autorité de l'État dans ces pays. Le fonctionnaire verrait qui s'opposera à cela. Il faut qu'on puisse lui opposer la loi dans toute sa rigueur.
Troisième dossier de la semaine, 2 milliards de dollars américains, c'est le coût global du financement de construction d'une route de 4 voies, d'une usine de cimenterie et d'un quai au port de Banana. Nous sommes dans le Bas-Congo.
La signature du protocole d'accord a eu lieu à Matadi entre le gouvernement provincial du Bas-Congo, représenté par le gouverneur Jacques Madounsitou, et l'entreprise Mesodi International, basée à Hong Kong et représentée par son directeur général. Nous en parlons avec Danny Kindanzita.
Sur les 2 milliards de dollars américains placés dans des banques locales, 4 millions serviront à la construction de la cimenterie de Tumba dans le district de Cataractes, a fait savoir Anselme Mbakounimi, ministre provincial des Mines et Hydrocarbures. Le reste de l'enveloppe est destiné pour les deux autres projets, à savoir la construction d'une route à 4 voies à partir de Banana jusqu'au pont Mpozo à Matadi et la construction d'un quai au port de Banana à Mwanda. La nouvelle cimenterie à Tumba dans le district de Cataractes aura une capacité de production d'1 600 000 tonnes par an, soit 5 000 tonnes par jour. Le gouvernement provincial du Bas-Congo s'est dit persuadé sur la concrétisation de ces projets ambitieux grâce à la capacité financière et des capitaux que disposent les investisseurs pour le développement de la province du Bas-Congo. Aucune date n'a été fournie quant au début des travaux de ces différents projets. Le ministre provincial des Mines et Hydrocarbures a promis de donner plus de détails à ce sujet dans les heures qui suivent. Matadi, Danikin Danzita, Radio Okapi.
Voilà, professeur Godet Mpoi, un commentaire. Ça, c'est dans le cadre des climats des affaires.
Je crois que nous connaissons tous ce que la Chine est capable de faire sur le plan des constructions. Ce sont des initiatives qu'il faut louer. Mais seulement, ce que je peux donner comme conseil au gouvernement provincial du Bas-Congo, il ne faudra pas que nous puissions connaître ce qui s'est passé avec les routes de Kinshasa. Lorsqu'on construit une route, c'est pour au moins 20 ans. Il ne faudra pas qu'après, qu'il y ait encore des trous sur la chaussée comme nous sommes en train de le vivre à Kinshasa, qu'ils prennent des dispositions pour que l'entreprise s'engage par rapport à la garantie de la route, parce que je sais que dans ce genre de grandes aventures, les entreprises gagnent, mais l'État doit aussi gagner. Il ne faudra pas que lorsqu'il faudra construire la route, que dès 3 ans après, qu'on puisse encore y revenir. Mais sinon, dans l'ensemble, ce sont des initiatives qu'il faut louer, et c'est dans ce cadre-là que se signifient les partenariats publics-privés. Donc les partenariats publics-privés ne doivent pas venir se disposer sur les entreprises qui appartiennent à l'État pour qu'ils soient peut-être par après bradés, mais je crois que ça, ce sont des initiatives qu'il faut louer. Tout ce que je demande, c'est que les gouverneurs du Bas-Congo doivent ouvrir les yeux les bons pour que la route à construire puisse respecter les normes scientifiques en la matière.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Autre information de la semaine, en bref, au Kasaï-Oriental, le ministère provincial des Mines poursuit la lutte contre l'exploitation du diamant dans les zones non autorisées, notamment au-dessous de poteaux électriques. Lundi, la police a interpellé un monsieur qui fait regarder son chantier sous des poteaux électriques qui ramènent le courant électrique de la centrale hydroélectrique de Tchala à Mbujimayi par un autre groupe de policiers réquisitionnés pour des raisons évidentes. Le ministre provincial demande à la population de dénoncer toute personne qui exploiterait du diamant dans des endroits prohibés au mépris des instructions légales.
Une délégation du comité d'orientation de la réforme des finances venue de Kinshasa a lancé le mardi dernier en Bandaka les travaux de vulgarisation du projet de renforcement de la recevabilité et de la gestion des finances publiques Profit Congo. Cette activité se réalise en partenariat avec la Banque mondiale. Cette activité vise l'amélioration de la crédibilité, de la transparence et de la recevabilité dans la gestion et l'utilisation des finances publiques à l'échelon de la administrations, tant centrales que certaines collectivités.
Nous allons revenir au Kassai oriental, où la traversée de la rivière Lomami par Bac a suspendu jusqu'à nouvel ordre. L'administrateur du territoire des Lubao motive cette instruction par les soucis de prévenir deux cas de naufrage au regard de la dégradation progressive du Bac qui relie les deux berges. En attendant, les camions transportant des produits agricoles en provenance de Lubao, voire de Samba dans le Maniema, ne savent pas franchir la rivière et à l'autre rive. Les véhicules chargés des produits manufacturés en provenance de Mbujimayi via la cité de Kabinda devront attendre jusqu'à au rétablissement du trafic.
En bref également, la grève sèche depuis hier à la SNCC Mouenéditou dans le Kassai oriental. Selon le président de la délégation syndicale de la SNCC locale, le 500 agents réclame 3 mois d'arriérés de salaire, l'équivalent de 12 mois de salaire pour agents de maison et la dotation en farine de maïs. Le coordonnateur de la SNCC locale s'est refusé à toute déclaration.
Nous allons prendre cette autre actualité abordée la semaine. Parmi les pistes de solution au problème de chômage que connaissent les jeunes de la RDC, Forum national de la jeunesse est réuni depuis lundi à Goma dans le cadre de la conférence des jeunes de la CIRGL suggère au gouvernement de mettre un accent particulier sur l'agriculture, Nadine.
Un domaine qui, selon ce forum, peut créer des centaines d'emplois pour les jeunes dans tous les territoires de la RDC. C'est du moins la conviction déclarée le mardi dernier à Goma de la coordinatrice du Forum national de la jeunesse.
Professeur Godé Mpoi, un commentaire à placer sur l'une ou l'autre actualité qui a attiré votre attention?
Oui, mon attention a été retenue par l'ONG qui travaille en faveur de la jeunesse dans les zones qui vous.
Oui.
Je pense que ce sont des initiatives à encourager, mais ce que nous demandons aux créateurs des ONG, ils doivent comprendre que on crée une ONG par vocation. Parce que ce que nous constatons, c'est que certaines d'entre ces structures constituent les moyens de vivre de leurs créateurs. Si c'est pour vraiment aider la jeunesse, je pense qu'il faut encourager de telles initiatives.
Donc elles doivent être créées sans but lucratif.
Sans but lucratif. Parce que je ne suis pas seulement principiel, je suis factuel.
Ouais.
La plupart des gens qui créent des ONG chez nous, pas tous, il y en a qui créent des ONG vraiment pour rendre service, mais il y en a qui créent des ONG tout simplement pour en tirer des dividendes particuliers. Donc c'est pas intéressant. Mais pour les ponts ou les bacs qui est en difficulté dans les Kassai, je pense que ça doit interpeller le gouverneur de la province du Kassai oriental. Parce que vous savez que le Kassai est assez vaste. Lorsqu'il n'y a pas de voie d'accès au niveau de Lubao, cela veut dire que les produits alimentaires ne vont pas atteindre les grands centres de consommation et que les produits manufacturiers ne pourraient pas non plus atteindre les coins éloignés de la province.
Professeur, nous allons vers la fin de cette émission, mais nous allons parler de votre livre. Je l'avais annoncé, un nouvel ouvrage sur les droits douaniers qui est désormais disponible dans les rayons de livres économiques en RDC. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui a motivé le professeur Godé Mpoi à écrire ce livre sur le droit douanier en RDC?
Naturellement, le professeur, c'est le producteur de l'intelligence.
Ouais.
Je ne dis pas que je suis intelligent, mais c'est ça le travail d'un professeur. Et c'est dans mes attributions scientifiques de faire savoir le peu de savoir que j'ai. C'est ce qui m'a poussé à sortir ce livre. Pourquoi je l'ai sorti? Vous savez qu'aujourd'hui, toute l'économie internationale tourne autour des administrations douanières. Pour ceux qui suivent l'actualité, ils savent qu'en décembre 2013, l'Organisation mondiale du commerce venait d'adopter un accord sur la facilitation des échanges. Et toujours au courant du même mois, il y a eu la commission de politique générale de l'Organisation mondiale des douanes, en sigle OMD, qui s'était réunie en Irlande et a débouché sur la résolution de Dublin, dans laquelle les administrations, l'Organisation mondiale des douanes s'engage à mettre en œuvre cet accord de facilitation des échanges. Donc l'avantage de cet accord, c'est de rendre le commerce international fluide, faire gagner à l'économie mondiale environ 325 milliards de dollars l'an, de manière à résorber la crise financière. Il était donc indiqué qu'on puisse avoir un ouvrage qui parle de manière détaillée de ces questionnements de développement, parce que vous le savez qu'aujourd'hui toutes les administrations des douanes du monde ont les mêmes procédures. Et ces procédures s'arc-boutent sur la convention de Kyoto révisée, et c'est ce que nous avons estimé. Comme il y avait un vide dans ces domaines-là, nous avons estimé utile de rendre un petit service à notre société en écrivant cet ouvrage que je vous recommande vivement.
Vous êtes économiste, professeur d'université. Vous savez que la fraude douanière, nous en parlons en RDC, elle est fréquente, ça on le sait. Un livre de 8 chapitres, et j'ai lu dans la conclusion, vous dites que dans les rôles protecteurs de l'économie congolaise, la douane devient de plus en plus un outil de stabilisation du cadre macroéconomique à travers les régimes douaniers fiscaux. Ça veut dire quoi?
Bon, vous devez savoir d'abord que lorsque vous lisez la charpente budgétaire de la République démocratique du Congo, au palier des ressources, des recettes courantes, vous verrez que les régies financières contribuent à environ 70%.
Ouais.
Et il va de soi qu'en moyenne, le secteur douanier prend en charge les 35% de ses recettes, donc des recettes du budget de l'État. Alors, maintenant, au-delà du rôle fiscal de renflouer les comptes du trésor, le nouveau code a créé des régimes dits économiques qui permettent aux opérateurs économiques d'importer soit les intrants, soit certaines marchandises sous des régimes suspensifs, donc sans payer les droits. Ils ont la possibilité de transformer ces produits-là sur le plan national pour les revendre après. Donc, ces régimes-là viennent en rescousse de l'économie, parce que les intrants qu'on importe sans en supporter les droits permettent à l'entreprise de garder encore sa trésorerie en bon état, et que ce qui les supprime de la trésorerie peut être affecté à de nouveaux investissements. Et d'aider, lorsqu'on a la possibilité d'importer les intrants sans payer les droits des douanes, on va enthousiasmer les investisseurs à venir davantage, parce qu'ils savent qu'ils ont la possibilité d'importer sans payer les droits et partant produire des biens. Lorsqu'on produit des biens, le coût de production n'a pas été élevé, les prix sur le marché ne le sera pas non plus.
La douane contribue à hauteur de 70%, ça on le sait, mais également il y a beaucoup de choses que nous déplorons dans les secteurs. Qu'est-ce que vous relevez des positifs qui peut plus aider pour organiser la douane congolaise?
Merci. Avant de passer à nos suggestions, je voulais vous faire voir que La douane congolaise se porte bien depuis l'avènement de l'actuel directeur général à la personne de Deoro Gwiza. C'est déjà quand il est arrivé à la douane, les recettes douanières étaient autour de 300 millions de dollars. À ce jour, donc, c'est-à-dire l'année passée, on a été à 1 milliard 800 millions. Donc il y a déjà des efforts énormes qui ont été déployés. Ce que nous suggérons pour améliorer davantage les recettes et surtout combattre la fraude, on doit combattre la fraude à notre sens, d'abord en amont. Il faut que la DGDA, c'est-à-dire la politique économique de notre pays, apprenne à déterminer des taux de l'impôt en se servant des outils économiques, notamment en calculant l'élasticité de la demande pour les impôts qui reposent sur la dépense comme les droits douaniers, et en se référant à l'élasticité de l'offre pour les impôts attaché aux revenus. Donc, si on arrive à déterminer ce quantum fiscal-là, avec le leadership actuel de la DGDA, je crois qu'il y aura un miracle.
Un mot dans tout ce que nous avons dit.
Ce que les auditeurs, d'abord les Congolais ou bien ceux qui habitent notre pays, ils doivent retenir que pour changer ce pays, il y a trois conditions à observer. C'est vrai que le magistrat suprême a déjà donné du ton, en donnant une vision claire, mais pour qu'on puisse atteindre cette vision, il faut la discipline des dirigeants, le dur labeur de la population et la bonne intelligence avec la communauté internationale. C'est vraiment anormal que la fonction publique, qui est à quelques mètres de la primature, les bureaux soient fermés jusqu'à 9h. Ça devait quand même susciter la curiosité de beaucoup de gens, parce que partout ailleurs, l'administration publique, c'est l'outil principal du développement. Donc, au-delà de l'aspect contrôle que nous évoquons, nous en appelons à la bonne foi de nos fonctionnaires pour qu'ils apprennent à être attents dans leur bureau et ne pas quitter trop tôt parce que la République attend beaucoup d'eux.
C'était le professeur Godempoy, professeur d'université.
Ouais.
Il est également pasteur, il est économiste. Nous allons finir cette émission par la Nadine.
Oui, c'est ça.
La technique était tenue par Jean-Claude Anciala. Nous allons nous quitter là et nous retrouver pour le week-end prochain.